France Culture.
On fait le point sur l'information, c'est donc le journal de la rédaction avec Thomas Cluzel. Rebonjour Thomas.
Rebonjour Marie, bonjour à toutes et à tous. Toute la nuit, l'armée israélienne a pilonné Gaza, des bombardements meurtriers avec l'objectif de s'emparer de cette agglomération qu'elle présente comme l'un des derniers bastions du Hamas dans le territoire palestinien. Une incursion terrestre est en cours, nous serons à Jérusalem dès le début du journal. On détaillera par ailleurs les conclusions de la commission d'enquête des Nations Unies publiée ce matin selon lesquelles l'État hébreu commet bel et bien un génocide dans la bande de Gaza. Et puis à l'occasion de la visite aujourd'hui du secrétaire d'État américain au Qatar, une semaine après l'attaque israélienne, on parlera avec notre invité de la relation stratégique désormais compliquée forcément entre l'Émirat et Washington. Ça n'était pas arrivé depuis 2 ans. La nuit dernière, la France a rapatrié 13 femmes et enfants depuis les camps de prisonniers djihadistes en Syrie. À la veille, l'avant-veille d'un nouveau mouvement de protestation et en prévision de la formation de son gouvernement, on s'intéressera aux dernières tentatives de Sébastien Lecornu de donner des gages à la gauche. Enfin, on détaillera ce sondage qui nous apprend que 66% des Français musulmans interrogés déclarent avoir fait l'objet de comportements racistes au cours des 5 dernières années. Partout des morts et des blessés, sans oublier les disparus sous les décombres. La nuit dernière, de très fortes frappes se sont fait entendre dans la bande de Gaza assiégée et affamée. Gaza brûle, a d'ailleurs déclaré lui-même ce matin le ministre israélien de la Défense, des bombardements massifs et incessants comme autant d'avertissements impérieux avant l'invasion de la ville palestinienne par l'armée israélienne. Michel Paul, bonjour.
Bonjour Thomas, bonjour à tous.
Correspondant de RFI pour France Culture à Jérusalem. Pas plus tard que dimanche dernier, le chef d'état-major de l'armée avait de nouveau appelé Benjamin Netanyahu à négocier un cessez-le-feu, en vain donc, puisque une incursion terrestre, Michel, est actuellement en cours.
Oui, l'armée israélienne confirme ce matin l'entrée dans une nouvelle phase de son opération militaire. 2 divisions font actuellement route vers le centre de la ville de Gaza, la capitale de l'enclave, et 1/3 devrait les rejoindre. Ce déploiement est rendu possible par une mobilisation massive de réservistes. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a qualifié cette étape de décisive, demandant même à écourter son audience judiciaire ce matin en raison de ces développements. Des sources militaires précisent que cette incursion se fera de manière progressive et graduelle. Elle a été donc précédée la nuit dernière par des bombardements d'une intensité sans précédent, selon les habitants qui ont vu des colonnes de tanks épaulées par des hélicoptères de combat. L'objectif déclaré d'Israël est de détruire les infrastructures militaires du Hamas, un groupe dont près de 3000 combattants, certains en civil, seraient toujours présents en ville, et le but est d'en prendre le contrôle. L'armée israélienne estime que plus de 40% de sa population a déjà quitté la ville, soit environ 350 000 personnes. Un nouvel appel à l'évacuation des civils vers le sud est lancé ce matin, les autorités les avertissant qu'ils se trouvent dans une zone de combat dangereuse. La défense civile gazouie sous contrôle du Hamas dénonce, elle, déjà un massacre majeur alors que l'exode massif des civils se poursuit.
Merci Michel Paul en direct de Jérusalem. Alors jusqu'où se poursuivra l'obscénité criminelle de ce conflit face à l'ampleur du carnage après 23 mois d'une guerre sans merci, massacre quotidien, destruction systématique en représailles aux attaques elles-mêmes barbares du 7 octobre. Il est une accusation entendue depuis déjà longtemps et qui pourrait potentiellement jeter une ombre menaçante sur la politique de Benjamin Netanyahou, celle qui rend responsable le gouvernement de génocide dans la bande de Gaza. Or, depuis ce matin, cette mise en cause des autorités israéliennes est désormais portée par l'ONU elle-même, selon une commission d'enquête indépendante mandatée par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Plusieurs hauts responsables, dont le Premier ministre, ont délibérément poussé à commettre ce crime. Les précisions depuis Genève de Jérémy Lanche.
Le rapport met en cause le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le président israélien Isaac Herzog et l'ex-ministre de la Défense Yoav Gallant, tous coupables selon des experts d'avoir incité par leurs déclarations les forces armées à commettre un génocide à Gaza. Quand on lui demande si elle pense que les 3 hommes devraient être jugés par la Cour pénale internationale, la présidente de la commission, Navi Pillay, répond clairement oui et elle en appelle à la communauté internationale pour qu'elle prenne ses responsabilités.
Le génocide en cours à Gaza est une honte morale et constitue une urgence légale. Les États qui font partie de la Convention de 1948 doivent agir maintenant. Il n'y a pas besoin d'attendre que la Cour internationale de justice se prononce. Tous les États doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour empêcher le génocide.
the commission of genocide.
Tout ce qui est en leur pouvoir, ça veut dire appliquer le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale contre Benjamin Netanyahou et Yoav Gallant. De son côté, Tel Aviv rejette un rapport mensonger et réclame la dissolution de la commission d'enquête taxée d'antisémitisme.
Alors toute cette séquence, qu'il s'agisse donc de l'incursion israélienne dans la ville de Gaza, comme de ce rapport de l'ONU qui fait porter la responsabilité du génocide dans l'enclave palestinienne à l'État d'Israël, intervient au lendemain de la visite à Jérusalem du secrétaire d'État américain, lequel a réitéré le soutien indéfectible de son pays à Israël. Dès lors, qu'est-ce que Marco Rubio va bien pouvoir offrir à présent à l'émir du Qatar, celui-là même dont le pays a été directement ciblé la semaine dernière par une attaque israélienne? Le chef de la diplomatie américaine est arrivé ce matin à Doha, où la veille, les dirigeants des pays arabes et musulmans ont eux tous appelé à revoir leurs relations avec Tel Aviv, mais aussi à engager des poursuites à son encontre. Et pour en parler avec nous, invité à présent de la rédaction, Fatia Dazi-Eni, chercheuse spécialiste du Golfe et du Moyen-Orient à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire. Bonjour madame.
Bonjour.
Peut-être pour commencer, comment interprétez-vous donc cette convocation en urgence hier des dirigeants des pays arabes et musulmans suite aux frappes israéliennes? Y a-t-il une certaine fébrilité peut-être de leur part quant à de possibles nouvelles frappes de l'État hébreu?
Il y a surtout la volonté d'exprimer son exaspération et au-delà sa stupeur suite aux frappes israéliennes le 9 septembre. Sur Doha, sur un site résidentiel dans une toute petite ville comme Doha, par un partenaire, puisque Israël est depuis septembre 2021 un membre à part entière de l'USCENTCOM, donc ce dispositif militaire qu'abrite Doha, et donc la plus grande base militaire américaine. Donc c'est la stupeur, et puis une certaine exaspération. Une certaine exaspération aussi par rapport à la confusion des déclarations du président Trump qui commence par dire qu'il n'était pas au courant des frappes et ensuite on apprend qu'il aurait félicité le premier ministre israélien pour ces frappes, pensant qu'elles avaient elles avaient réussi à éradiquer les cadres du Hamas.
Je le disais, le secrétaire d'État américain Marco Rubio est arrivé donc ce matin à Doha. Il a enjoint le Qatar à conserver son rôle de négociateur entre le Hamas et Israël en affirmant que l'Émirat est aujourd'hui, je le cite, le seul pays capable d'aider à mettre fin à ce conflit par la négociation. Pour autant, est-ce que l'attaque d'Israël sur le sol qatari, donc la semaine dernière, mais aussi l'incursion terrestre ce matin à Gaza, ne rend pas désormais impossible toute négociation diplomatique?
Oui, ça paraît extrêmement compliqué. Comment voulez-vous faire confiance à Israël et aux États-Unis alors que le Doha mène ses négociations pour réussir à établir un cessez-le-feu et à libérer les otages israéliens, et parallèlement Israël frappe Doha? Ça paraît compliqué aujourd'hui. Comme vous l'avez très bien dit dans votre reportage, Israël mène une attaque terrestre à Gaza, plus de 350 000 Gazaouis fuient vers le sud de la bande de Gaza, il en resterait environ 600 000 désemparés. Ça paraît très très compliqué de mener ces négociations.
Je le disais en introduction, Marco Rubio était hier à Tel Aviv pour rencontrer Benjamin Netanyahou. En deux jours, le secrétaire d'État a montré sa solidarité avec le leader israélien tout en réaffirmant le soutien des États-Unis au Qatar. Dans quelle position se trouvent aujourd'hui les États-Unis?
Très compliqué, c'est vrai que c'est extrêmement confus. D'une part, Rubio insiste en répétant que les États-Unis sont un allié indéfectible d'Israël et parallèlement à cela demande au Qatar de poursuivre son rôle de médiateur et il semblerait que le secrétaire d'État américain propose de convenir d'un accord de défense avec le Qatar pour rassurer celui-ci. Comme si la présence américaine au Qatar dans la base d'Al Udeid ne suffisait pas normalement à garantir la sécurité du Qatar. Donc,
Ça veut dire que le partenariat stratégique entre le Qatar et les États-Unis est aujourd'hui menacé.
Le Qatar n'a pas d'autre choix que de continuer, bien entendu, à abriter cette base américaine. Ils ont finalement très très peu de latitude, les pays du Golfe, en dehors de diversifier des partenaires de défense. Mais ils sont tellement dépendants de la sécurité américaine et de l'armement américain que ça paraît très compliqué pour eux. D'ailleurs, la déclaration de Doha, elle ne va pas très loin. Effectivement, le 15e point de cette déclaration, qui en comporte 25, appelle à des sanctions contre Israël. Mais si les États signataires des accords d'Abraham, dont les Émirats arabes unis, Bahreïn et le Maroc, ne dégradent pas leurs relations avec Israël, eh bien ce sera un sommet pour rien.
C'est bien compris. Merci Fatia Dazieni, chercheuse donc spécialiste du Golfe et du Moyen-Orient à l'Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Loïse Guérin pour la préparation.
Un duel de vétérans sur fond d'économie moribonde.
Oui, au Malawi, petit pays pauvre et enclavé d'Afrique australe, les habitants ont commencé à voter ce matin pour des élections générales qui verront notamment s'affronter pour la fonction suprême le président sortant, un pasteur évangélique septuagénaire, et son prédécesseur, un ex-professeur de droit aujourd'hui âgé de 85 ans, une alternative qui pourrait surtout se résumer en réalité à un choix entre deux déceptions, chacun de ces deux hommes incarnant à sa manière un potentiel inexploité en même temps que des espoirs déçus. Parce que l'attaque de drones russes en Pologne la semaine dernière constitue un précédent qui exige sans doute une réaction tout aussi inédite de la part des Européens et au-delà d'ailleurs de l'Alliance Atlantique, le président fraîchement investi polonais, pourtant fervent nationaliste, eurosceptique, admirateur d'un certain Donald Trump, est attendu aujourd'hui pour la première fois à Berlin et à Paris avec l'espoir donc de renforcer la protection de sa frontière à la limite orientale de l'UE.
Lui est attendu ce soir au Royaume-Uni pour une visite d'État de deux jours.
Lui, c'est le président américain, cortège en carrosse, défilé aérien, dîner royal au château de Windsor. Le roi a prévu de sortir le grand jeu pour faire la cour à son invité, amateur de pompe monarchique, mais pas seulement, puisqu'il s'agira aussi de le mettre dans les meilleures dispositions possibles pour l'entrevue programmée de Donald Trump avec le Premier ministre travailliste Keir Starmer, lequel ne partage pas particulièrement les orientations politiques du chef de la Maison-Blanche.
La France a organisé la nuit dernière le rapatriement de 13 personnes retenues dans les camps de prisonniers djihadistes du nord-est de la Syrie.
Oui, un mineur de 16 ans, mais aussi trois femmes âgées de 18 à 34 ans, avec pour deux d'entre elles leurs 4 et 5 enfants respectifs, qui ont immédiatement été pris en charge par l'assistance éducative sous la responsabilité du parquet. L'une de ces femmes, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, sera présentée dans la journée, un juge d'instruction, et les deux autres ont été placés en garde à vue. Alors forcément, 10 ans après la vague d'attentats dans l'Hexagone, ces retours restent toujours une question très sensible en France. En revanche, pour les familles concernées qui réclament ces rapatriements depuis des années, c'est bien entendu un soulagement. Je vous propose d'écouter leur avocate Marie Dosé au micro de Florence Turme.
Évidemment que les familles concernées sont soulagées. Un de ses enfants est né dans le camp, donc il n'a connu que le camp, il a 6 ans. Et une de ses petites filles avait un mois quand elle est arrivée dans le camp. Ils vont au moins avoir pour horizon autre chose que les barbelés, le sable, la boue et les tentes. Mais nous sommes extrêmement déçus plus que ça. Une trentaine de jeunes majeurs, d'enfants et de femmes auraient pu rentrer. Le choix qui a été fait est celui de l'arbitraire. Je vous donne un exemple. Deux sœurs qui sont arrivées dans les camps à l'âge de 12 et 14 ans ont demandé leur rapatriement. La France explique depuis le début que sans l'accord des mères, les enfants ne peuvent pas rentrer. Leur mère ne souhaitait pas rentrer avec les enfants. Elles ont aujourd'hui 18 et 20 ans et elles disent « ça y est, nous sommes majeurs depuis la dernière opération de rapatriement, nous voulons être rapatriés en France, nous n'avons pas choisi d'être emmenés en zone de guerre quand on avait 8-9 ans, on n'a pas choisi de rester dans les camps pendant 6 ans, maintenant que nous sommes majeurs, nous voulons rentrer, nous sommes françaises. » La France a refusé de les rapatrier. Pourtant, elle a rapatrié une autre jeune majeure cette nuit. Donc tout ça n'a pas de sens. On est à nouveau dans l'arbitraire. Même chose. Vous avez des jeunes majeurs qui sont malades, blessés, dans un état psychologique désastreux, dans ce centre de déradicalisation Orkech. Nous les avons vus, nous les avons rencontrés. Ces jeunes majeurs ne sont pas rapatriés. Ils n'ont pas choisi d'être emmenés en zone de guerre par leurs parents à 10 ans. On aurait pu rapatrier ces jeunes majeurs qui le demandent et qui sont victimes du choix de leurs parents. La France refuse de le faire et je ne comprends pas pourquoi.
Voilà, l'avocate Marie Dosé, donc au micro de Florence Thur, mais je précise que 110 enfants et leur mère, ainsi que 5 jeunes majeurs, sont toujours retenus dans les camps du nord-est de la Syrie. Parce qu'ils s'exposent désormais noir sur blanc dans tous les sondages, quand ils ne sont pas écrits par ailleurs en lettres capitales sur les banderoles des mouvements de protestation, les responsables politiques ne peuvent sincèrement rien ignorer aujourd'hui du ressentiment tenace qui règne vis-à-vis des élites, comme de ce divorce d'avec leur opinion publique. Et le nouveau Premier ministre ne fait pas exception à la règle, raison pour laquelle depuis son arrivée à Matignon, Sébastien Lecornu ne cesse de promettre des ruptures pour rétablir un sentiment de confiance. Alors comment l'abandon de la suppression de 2 jours fériés constitue une première victoire pour les oppositions, mais aussi les syndicats qui appellent toujours à descendre dans la rue le 18 septembre. S'agissant de la taxation des plus hauts patrimoines, le Premier ministre se dit pour l'heure seulement conscient de la nécessité de faire quelque chose. Enfin, hier, le chef du gouvernement a annoncé la suppression à partir du 1er janvier prochain des avantages à vie dont bénéficiaient jusqu'alors les anciens premiers ministres. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour Thomas.
La mesure apparaît bien sûr surtout symbolique, mais pas seulement.
Oui, l'État ne réalisera pas d'économies considérables, puisque si on comptabilise les avantages dont bénéficient les 17 anciens premiers ministres encore en vie, on arrive à une somme totale de 4 millions et 400 000 euros. Mais tout de même, symboliquement, c'est important, car les avantages octroyés n'apparaissent pas tous justifiés. Actuellement, un premier ministre bénéficie d'une voiture avec chauffeur à vie, d'un secrétaire particulier pendant 10 ans, ainsi que d'une protection policière, là encore sans limitation de durée. Ce dernier avantage étant également octroyé aux anciens ministres de l'Intérieur. Et donc, à partir du 1er janvier 2026, ces avantages seront limités. La voiture avec chauffeur a une durée de 10 ans et la protection policière a une durée de 3 ans, concernant un ancien premier ministre, de 2 ans pour un ancien ministre de l'Intérieur. Le secrétariat particulier, quant à lui, restera un avantage octroyé pour 10 ans. Cette durée ayant déjà été limitée par un décret signé en 2019 du temps d'Édouard Philippe. Les responsables publics sont conscients du ressentiment que suscitent ces avantages. L'année dernière, Michel Barnier avait déjà annoncé vouloir s'attaquer au problème. Il ne l'a pas fait. François Bayrou également a récemment confié à l'ancien député spécialiste des finances publiques, René Dosière, le soin d'évaluer les avantages dont bénéficient les responsables politiques et notamment les anciens ministres. Celui-ci devait rendre son rapport et ses préconisations en décembre. Par ailleurs, une proposition de loi déposée par le député de la Marne en avril dernier, Charles de Courson, prévoyait elle aussi de réduire les avantages des ex-premiers ministres ainsi que des anciens présidents de la République. Celle-ci n'avait pas encore été examinée. Le décret de Sébastien Lecornu, lui, réduit les avantages des anciens premiers ministres, mais ne revient pas sur les avantages des anciens présidents. Et pourtant, en proportion, ils coûtent bien plus cher aux finances publiques, car ils ne sont que 2, Nicolas Sarkozy, François Hollande, et ils bénéficient de 4 personnes à leur service, d'un logement de fonction meublé et équipé, d'une voiture avec chauffeur et d'une protection policière. Tout ça pour un montant annuel de 2 millions et 700 000 euros.
Merci Stéphane Robert.
Quand le recteur de la Grande Mosquée de Paris appelle à un sursaut face à la musulmanophobie.
Oui, cette déclaration fait suite à un sondage qu'il a lui-même commandé, réalisé entre août et septembre dernier auprès d'un peu plus d'un millier de Français musulmans âgés de 15 ans et plus, et dont plus de 80% estiment que la haine qui s'exprime à leur égard est aujourd'hui un phénomène répandu. Anne Fauquemberg, bonjour.
Bonjour.
Alors cette enquête se distingue en réalité de celle réalisée précédemment, au point, Anne, qu'elle pourrait même servir de repère pour un suivi au long cours de ce phénomène.
Oui, la Grande Mosquée avait déjà commandé des sondages de ce type, mais l'échantillon était plus petit, de l'ordre de 500 personnes. Et puis cette fois-ci, le volet de l'enquête qui porte sur les discriminations et les agressions s'est fait par questionnaire auto-administré, en ligne, sans la présence donc d'un enquêteur, car on sait que la présence d'un enquêteur peut réduire la capacité à exprimer ce type de traumatisme. Les résultats sont sans appel. Plus de 80% des musulmans estiment que le racisme à leur égard s'est aggravé depuis 10 ans et près d'un sur deux dit avoir subi au moins une discrimination au cours des 5 dernières années. C'est particulièrement vrai lors de la recherche d'un emploi, explique François Cross, le directeur du pôle politique de l'IFOP.
On a à peu près la moitié des musulmans qui ont déjà recherché un emploi, qui estiment avoir déjà été discriminés en raison de leur religion. Et c'est à peu près 6 à 8 fois plus que ce qu'on observe dans les autres religions pour ce même motif. Donc on est sur des écarts considérables entre les musulmans et les autres personnes qui croient dans une religion, en France, sur tout un ensemble de phénomènes discriminatoires, comme par exemple aussi le logement ou le contrôle de police, qui affecte bien sûr beaucoup plus souvent les hommes et les jeunes, mais les musulmans en sont encore plus victimes que le reste de la population.
Au regard de ces chiffres, la question de l'islamophobie constitue désormais un enjeu crucial pour la société française. Selon le recteur de la Grande Mosquée, Shems Edim Hafiz appelle à des mesures de contrôle et de sanctions dans l'emploi, le logement, les services publics, ainsi qu'à des formations renforcées pour les agents de l'État et les responsables d'entreprise.
Merci Anne Fauquemberg. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi. Grisaille au nord et soleil au sud. Quant aux températures, elles afficheront entre 16 et 27 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Axel Lubois. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Stanislas Vazak pour le prochain journal de la rédaction.